Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La semaine dernière, sœur Barbara nous rappelait dans l'Évangile que Jean-Baptiste, étant prisonnier, avait envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Et le Christ avait répondu à propos de Jean-Baptiste que lui-même, donc Jean-Baptiste, est Élie qui devait revenir. Si Jean-Baptiste se posait des questions sur Jésus, les prêtres et les lévites se posaient des questions sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prophétise, il baptise, et son attitude questionne, son attitude intrigue. Il lui demande « Qui es-tu ?» Et Jean répond sans équivoque « Moi, je ne suis pas le Christ, c'est-à-dire l'élu de Dieu, le Messie, tant attendu. » Alors ils insistent, « Qui es-tu? Es-tu Élie ?» Et Jean répond, « Non. Es-tu le prophète ?» Même réponse négative. Les prêtres ne comprennent pas. « Pourquoi donc baptises-tu, toi, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Il leur répond que lui baptise dans l'eau. Il annonce que quelqu'un doit venir et est même déjà là, au milieu d'eux, quelqu'un qui ressemble furieusement dans ses paroles au Messie, au Sauveur attendu. Les prêtres qui interrogent Jean-Baptiste connaissent bien la loi. Pourquoi disent-ils Élie ou le prophète? Dans le Deutéronome, il est dit « Le Seigneur ton Dieu te suscitera parmi tes frères un prophète. Comme moi, c'est à lui que vous prêterez l'oreille. » Et Malachie avait annoncé la venue d'Élie comme préparation du grand jour messianique. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et l'ange Gabriel avait dit à Zacharie en lui annonçant qu'il aurait un fils, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » C'est pour cela qu'ils veulent savoir qui est Jean-Baptiste. C'est pour cela aussi que Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est Élie. Non comme une réincarnation d'Élie, mais il travaille comme Élie, dans l'esprit et la puissance d'Élie. Alors la première réponse de Jean-Baptiste au prêtre est « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Isaïe le prophète. » C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ce n'est pas ma personne qui est importante, mais le message que par ma voix je vous transmets, dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi connaît les Écritures, et il nous dit ce que doit être le chemin de l'homme sur terre. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, arrêtez de vous tourmenter, de vous encombrer l'esprit de soucis divers, de quoi sera fait demain, de vous accrocher à des biens matériels, de vivre dans l'angoisse, la peur. Tout cela encombre le chemin vers notre cœur. Il nous invite à un grand nettoyage. Regardons dans le Saint des Saints sur la Déisis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que nous avons et est-ce que j'ai si difficile parfois à suivre ce chemin? La racine de notre vie, la source de notre vie, c'est lui, c'est le Christ, c'est la vie en Christ. Il nous invite à faire de notre intérieur, de notre cœur, un désert. Non pas comme un endroit stérile et sec où toute vie a disparu, mais comme un lieu de paix, un lieu de silence, débarrassé de tous les artifices que nous accumulons. Le désert, c'est le lieu où nous retrouver avec nous-mêmes, où nous ne sommes pas occupés à évaluer, à compter nos avoirs, où nous ne sommes pas tentés par toutes ces choses qui nous occupent et remplissent nos journées. Nous sommes là, sans bruit, ouverts et prêts à écouter le Christ qui nous parle. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, ajoute Jean-Baptiste. Et quand il dit au milieu de vous, ce n'est pas là, quelque part entre deux personnes, ou dans un espace extérieur à nous-mêmes, mais c'est en nous-mêmes. Saint Augustin disait, Dieu est en nous, mais nous n'y sommes pas. Et encore, le chemin n'est pas long de ton cœur à Dieu. Mais nous y avons construit tellement de contournements, de déviations, de collines artificielles, de précipices, que notre chemin du cœur est encombré. Dieu nous semble parfois si loin. Et pourtant, celui qui est en nous, c'est celui qui nous fait vivre. Il disait aussi, saint Augustin, il y a dans le cœur de chaque homme une niche en forme de Dieu. Cette niche est là pour accueillir l'esprit qui travaillera à ce nettoyage, à cette transformation, à cette transfiguration de notre être. Transfigurer, c'est avoir une autre figure, notre véritable figure, celle que nous sommes invités à laisser voir, c'est celle du Christ, et à travers lui, celle de Dieu, celle de l'amour. Le chemin que Jean-Baptiste nous invite à prendre est d'abord l'humilité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça devrait être le mantra qui habite nos journées. L'humilité nous conduit à abandonner nos forteresses, à arrêter de combattre sans cesse pour protéger notre image extérieure, à laisser tomber les masques et accueillir l'Esprit Saint. Il y a trois signes tangibles que l'Esprit Saint agit en nous. C'est la joie, la paix et l'amour. L'amour que nous rayonnons. C'est du concret, ce n'est pas la connaissance livresque théorique de la Bible ou des écrits des Pères qui fait que nous sommes habités, que nous sommes chrétiens, disciples du Christ. Maurice Zundel écrit « Être chrétien, c'est être universel. C'est apporter non une doctrine que l'on peut discuter, mais une présence que l'on peut respirer. Tout est là. » Et Nietzsche, il y a 150 ans, disait « Pour que je puisse croire en leur sauveur, il faudrait qu'ils aient une tête de sauvé. » Avons-nous l'air d'être sauvés? Sommes-nous dans la joie, dans la confiance, dans la paix? Saint Paul, dans son épître, nous dit « Quelle est notre part du travail ?» Ou plutôt, « Quelles dispositions intérieures doivent nous habiter pour que cette transformation intérieure s'accomplisse ?» La première, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Je le répète, « Réjouissez-vous, que votre douceur apparaisse aux yeux de tout le monde. » Dans cette exhortation, il y a deux points importants. C'est « Toujours et dans le Seigneur. » Se réjouir devrait habiter chacune de nos journées. Se réjouir lorsque tout va bien, que la vie nous sourit, que les affaires marchent, c'est facile. C'est une émotion positive qui jaillit spontanément, mais nous ne progressons pas. Lorsque survient une épreuve, c'est alors une émotion négative qui nous habite. C'est la tristesse ou la peur ou la colère. Saint Paul nous dit « toujours, tout, toujours, en toutes circonstances ». Cela veut dire « ne conditionnons pas notre joie ou l'absence de joie aux circonstances extérieures, à nos émotions, mais essayons pour tout ce qui nous arrive d'entrer dans nos profondeurs pour aller nous connecter à la source de la véritable joie, le Christ. C'est un travail exigeant, car cela nous oblige à oser l'inconnu et oser lâcher le connu qui nourrit continuellement notre mental. Ce travail de descendre dans nos profondeurs, saint Paul nous dit de le faire dans le Seigneur. Ça veut dire avec le Seigneur. Si nous pensons trouver la joie par nous-mêmes, avec nos propres forces ou par les autres, nous serons vite déçus, car ce seront des petites joies éphémères, suivies de moments de tristesse. Mais si nous restons centrés sur la source de la grâce, reliés à la joie inconditionnelle, alors tout deviendra occasion de joie. La deuxième disposition intérieure dont nous parle saint Paul, c'est la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. La douceur, c'est une qualité de relation. C'est quand nous sommes capables d'une écoute de la présence de Dieu en nous, mais aussi d'écouter l'autre. C'est oser manifester sans violence l'être que nous sommes. C'est oser prendre sa place sans agresser l'autre. Cela nous demande de la tolérance, de l'écoute et du respect. La troisième disposition intérieure, c'est la non-inquiétude, la confiance en la puissance de Dieu. C'est le contraire de la peur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous sommes souvent anxieux, préoccupés, tourmentés, désabusés. Nous vivons dans l'inquiétude, la peur distillée par le monde et les médias, et nous comptons sur nos forces pour nous rassurer. Faisons-nous confiance à la présence du Christ en nous? Est-ce que nous dialoguons avec lui? Ou est-ce que nous ne comptons que sur nous-mêmes? Dieu est toujours présent. C'est nous qui nous fatiguons les premiers, qui débranchons régulièrement la prise et l'énergie divine n'arrive plus jusqu'à nous. Nous sommes responsables de nos actes, mais agissons avec le Christ, sous son regard et ses conseils, comme un coach qui peut m'aider à progresser et qui est là pour me rassurer et me soutenir. Si nous ne comptons uniquement que sur notre intelligence, nous oublions toute l'énergie potentielle divine qui nous habite et qui ne demande qu'à nous aider si nous la laissons agir. C'est aussi pour cela que prier est important, car prier nous remet en relation avec Dieu. Exprimons nos désirs et exprimons notre gratitude. L'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, la quatrième disposition intérieure, c'est la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce quatrième aspect est le fruit des trois autres, la joie, la douceur et la non-inquiétude, avec la foi dans la puissance de la prière. Être habité de la paix du Christ est le résultat d'une attitude de confiance en la miséricorde de Dieu. C'est se sentir aimé, au-delà de tous nos échecs, de toutes nos pauvretés, de toutes nos faiblesses, nos oublis de Dieu. En somme, l'Avent, ce n'est pas seulement 6 semaines par an, mais c'est un mode de vie à construire chaque jour. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.